Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2,21 gigawatts! Mon Dieu! Recherche,
scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Summer is coming. La série Game of Thrones fait tout un foin de l'hiver, mais en France, c'est de l'été dont il faut se méfier. On ne peut que le déplorer, mais chaque épisode caniculaire promet son lot de morts et de larmes. Malaise cardiovasculaire, choc septique, hémorragie. Selon une étude de l'université de Hawaï, il y aurait à peu près 27 façons de mourir de chaud. Plutôt flippant quand à côté certains climatologues affirment que le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 55 degrés en 2050. Oui, on parle bien de la France. Alors je l'annonce, Hugo Jalinière du magazine Science et Avenir va vous donner envie d'acheter 3 ventilateurs et de dormir à côté de votre frigo. Bonjour Hugo.
Bonjour Romain.
Pour ce sujet spécial canicule, nous sommes accompagnés de l'une des expertes santé de 20 minutes, Anissa Boumediene. Bonjour Anissa.
Salut Romain.
Alors j'allume la clim du studio, il fait déjà un petit peu frais, et on peut rentrer dans le vif du sujet. On commence par la base. Qu'est-ce qui se passe concrètement, Hugo, dans notre corps quand la température extérieure grimpe?
Alors, la température corporelle du corps, ce qu'il faut voir, c'est que ça résulte d'un équilibre entre la chaleur produite par le métabolisme de l'organisme et celle qui se dissipe dans l'environnement. Donc il faut voir un peu l'organisme comme une machine complexe de thermorégulation. On a des récepteurs à la chaleur sur la peau et les muscles et qui sont reliés à un thermostat qu'on a niché dans le cerveau. C'est l'hypothalamus, qui est une petite structure de la taille d'une amande et qui est pleine de neurones thermosensitifs. Et quand la température extérieure s'élève, c'est donc détecté par tous les récepteurs cutanés. Et cette glande qui fait le pont en fait, entre le système nerveux central et le système endocrinien de l'organisme va commander certaines mesures d'urgence au corps. Il y en a deux principales, c'est évidemment la sudation, on transpire, et puis l'autre c'est la vasodilatation cutanée. C'est-à-dire qu'on a les petits vaisseaux sanguins tout en périphérie du corps qui vont s'élargir un petit peu de telle façon à accroître le débit sanguin dans ces vaisseaux. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le corps humain, il y a la température centrale qui comprend donc du cerveau et tout le tronc du corps. Et à côté de ça, on a la température dite périphérique, celle des membres, des jambes, des bras, qui est un peu plus basse que les 37 degrés qu'on connaît dans la température centrale. Et l'idée, c'est de favoriser les échanges de chaleur entre la température centrale et la température en périphérie, qui, elle, peut varier un peu.
Donc, de combien de degrés à peu près?
Alors, donc la température centrale est aux alentours de 37 degrés. C'est la température optimum pour les cellules. Et en périphérie, elle est inférieure de 2 à 4 degrés. Donc on est à 35 degrés. Et ça peut varier. Là, il y a un jeu quoi, qui peut s'opérer. Et donc l'idée, quand la température s'élève, la température centrale va augmenter. Et l'organisme, qu'est-ce qu'il fait? C'est de dissiper cette chaleur vers la périphérie et donc vers l'environnement. Ça marche quand la chaleur, la température extérieure n'est pas trop élevée.
Ouais, bah justement, j'y viens. En gros, si jamais tu as, d'une part, la chaleur, qu'il n'y a pas de vent, qu'il y a trop d'humidité, et si jamais tu n'as pas assez bu, en gros, on se retrouve avec un cocktail assez costaud qu'on appelle, c'est ça, un stress thermique, si j'ai bien compris.
Ouais, tout à fait. Alors en fait, le stress thermique, il peut être potentialisé par deux facteurs environnementaux. Comme tu le dis, c'est l'absence de vent et l'humidité. Pourquoi ? Parce que la sudation, comment ça rafraîchit ? Le fait de transpirer, c'est pas l'eau que ça crée sur le corps, mais c'est l'évaporation de cette transpiration. Donc, quand on a beaucoup d'humidité dans l'air, et qu'il n'y a pas de vent, l'évaporation de la sueur ne se fait pas. Donc, ça refroidit pas la surface du corps. Pour l'hydratation, c'est un autre problème. L'eau, c'est un peu le carburant de cette machine de thermorégulation. Donc, c'est un facteur. On a besoin d'alimenter la machine en eau parce que les reins fonctionnent à l'eau, parce que quand on transpire, on perd de l'eau, etc. Mais d'un point de vue environnemental, une température très élevée va être majorée si on a de l'humidité et l'absence de ventilation.
Anissa, tu voulais rajouter un point ?
Oui, on parle souvent de l'importance de boire quand il fait très chaud, notamment pour mieux pouvoir transpirer et évacuer la chaleur après. On le sait, certains, enfin, on n'est pas tous égaux face à la chaleur. Il y a des personnes qui sont plus vulnérables que les autres, en particulier les personnes âgées. C'est ce qu'on a découvert très tristement avec la canicule de 2003. Et ce qu'on a appris très précisément, c'est que les fortes chaleurs, elle pose un problème principal, c'est celui de la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Et chez les personnes âgées, on le sait désormais, avec l'âge, en fait, elles perdent la capacité à ressentir les effets délétères de la chaleur et de la déshydratation. Doublé du fait qu'en vieillissant, on perd la sensation de la soif. Donc non seulement le corps, l'organisme des personnes âgées est moins performant justement pour réguler sa température et se maintenir justement à une température optimale de 37 degrés. Et en plus, ils perdent la sensation de soif, ce qui augmente les risques de déshydratation et après de risques en cascade voilà, qui nous mènent vers les 27 façons différentes de mourir d'un coup de chaud qui sont détaillées dans ce dossier.
Oh là là. Malheur. J'ai eu chaud. J'avais mal au cœur, dit-on.
Ça va aller ?
Je crois, oui.
Bon, bah, je viens avec vous.
Que justement, on y vient. Comment le mélange de ces différents facteurs fait qu'on aboutit à un total, hein, alors on ne sait pas s'il y en a peut-être d'autres qu'on découvrira plus tard, mais de 27 façons de mourir différentes à cause d'un coup de chaud.
Alors, il faut préciser un peu le cadre de cette étude qui met en avant donc, les 27 façons de mourir de chaud, c'est ce qui est un peu dingue dit comme ça. Mais il se trouve que ce sont des géographes de l'université d'Hawaï qui travaillent sur le réchauffement climatique et qui commencent à se poser la question des problèmes sanitaires que ça cause et que ça va causer un peu partout dans le monde. Et donc, eux, ils ont fait un travail qui a été publié dans la revue de l'Association américaine de cardiologie, qui était de faire une revue de la littérature médicale pour voir quelles étaient les différentes causes de décès. Alors, 27, en réalité, sont 27 phénomènes qui entrent ou qui peuvent entrer en jeu dans le processus de la physiopathologie du coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est une espèce de cercle vicieux qui s'engage dans l'organisme du fait d'un défaut de la régulation. Et donc, ces 27 façons de mourir de chaud, elles renvoient à 5 mécanismes physiologiques, donc des mécanismes chimiques provoqués par la chaleur dans le corps humain, 5 mécanismes qui ont ou peuvent avoir des effets sur 7 organes vitaux. Donc si on multiplie, ça fait 35, sauf que dans la littérature médicale, on a trouvé 27 processus différents, selon que ça s'attaque au cerveau, aux intestins, au cœur, le foie, les poumons et le pancréas. Donc ça, c'est les 7 organes vitaux qui se trouvent être dans la partie centrale, le tronc, voilà, qui doit être régulé à 37 degrés. Donc ces chercheurs ont établi les différentes étapes de ce processus du coup de chaleur. Alors, comment ça s'enclenche ? La première chose, c'est ce dont on parlait au début, cette vasodilatation des petits vaisseaux sanguins en périphérie, qui donc accroît le diamètre et le débit sanguin à la périphérie, va réduire du même coup le débit sanguin à l'intérieur, donc pour le cœur, pour le foie, les poumons, etc. Ce qui fait que ça crée un déséquilibre. Donc on peut se retrouver avec une défaillance de la circulation sanguine. On a des organes qui sont moins alimentés en sang, donc moins alimentés en oxygène, et qui sont donc en état de stress du fait d'un manque d'alimentation en oxygène.
Donc ça, c'est l'un des premiers, entre guillemets, non pas symptômes, mais l'une des premières façons de surcharge, une des premières formes de surcharge du corps vis-à-vis de la chaleur.
La vasodilatation cutanée, c'est le premier mécanisme, mais en soi, il est pas problématique. C'est un mécanisme de compensation qui peut faire qu'on supporte tant bien que mal une forte chaleur. Le problème, donc, c'est que on a des organes qui peuvent pas supporter trop longtemps cette situation. Le problème, c'est qu'on a la chaleur, elle a une toxicité intrinsèque sur les cellules. C'est-à-dire que si elle dure trop longtemps, on va avoir des cellules dont les parois peuvent se désagréger. Au-delà de 38-39 degrés, sur un certain temps, on ne peut pas rester indéfiniment comme ça. Et donc, les cellules, en se dégradant, elles relâchent des déchets.
Des toxines, c'est ça ?
Des toxines. Alors, ça peut être les cellules de l'organisme, ça peut être les bactéries qu'on héberge aussi. Dire toutes ces cellules sont heurtées par la chaleur. Et en fait, c'est pour ça que je parlais de cercle vicieux au départ. C'est que quand on a ce mécanisme-là qui s'enclenche, donc des parois cellulaires et bactériennes qui se désagrègent, qui relâchent des toxines, on a une réponse inflammatoire. On a de la fièvre, en fait. Et quand on a chaud, ça s'ajoute. C'est des effets qui se potentialisent entre eux. La réponse inflammatoire, qui elle-même est un problème, je veux dire, si ça fait monter la température, on a des molécules de l'immunité qui vont perturber en fait un peu tout le fonctionnement de l'organisme, puisque ça touche toutes les cellules. Et après, il y a le quatrième mécanisme donc qu'on décrit dans l'article, c'est ce qu'on appelle la rhabdomyolyse. C'est une dégradation cellulaire des muscles squelettiques. Alors ça peut être majoré pour ceux qui ont la mauvaise idée de faire du sport quand il fait très chaud. Ça casse de la fibre musculaire de faire du sport. Et pareil, de la même façon, quand on casse de la fibre, on relâche des toxines dans le sang. De telle façon à ce que tous ces mécanismes en arrivent à modifier la composition chimique du sang. Et là, on arrive, c'est le cas gravissime, c'est la coagulation intravasculaire disséminée. Alors, c'est un peu compliqué, ouais. Mais en fait, c'est un syndrome qui se retrouve dans tout un tas de pathologies. On en a parlé à l'époque d'Ebola, parce que en fait, quand l'organisme est saturé d'agents étrangers, de toxines ou que ce soit virus ou n'importe quoi, la composition chimique du sang se modifie de telle sorte à ce que ça va déclencher des facteurs de coagulation. Ça va suractiver les facteurs de coagulation qui nous permettent donc de coaguler. Et le revers de cette triste médaille, c'est que là où on suractive les facteurs de coagulation, on se retrouve avec du sang qui, dans d'autres endroits, qui n'est plus capable de coaguler. Donc, on peut se retrouver avec des hémorragies internes. C'est exactement le mécanisme d'Ebola quand on voit ces hémorragies internes. Évidemment, là, c'est un tableau clinique qui est dramatique et on est à un stade
très dangereux.
Voilà, le pronostic vital est très sérieusement engagé.
Ce qui est quand même assez fou, c'est de se dire que à un ou degré près, notre organisme se met totalement en PLS et laisse tomber quoi. C'est un ou deux degrés.
Oui, un ou deux degrés. Alors après, ça dépend aussi du temps. Mais bon, on sait bien qu'il faut pas. On peut supporter une fièvre de 38, 39, arriver à 40 degrés. On commence à avoir un vrai problème. Alors un ou deux degrés dans l'organisme, ça. On peut le tolérer, ça dépend aussi. Il y a une susceptibilité individuelle qui est très importante. Par exemple, la chercheuse de l'Institut de recherche biomédicale des armées que j'ai interviewé expliquait que selon la composition du microbiote, on va avoir une sévérité du coup de chaleur plus ou moins importante, une rapidité aussi de dégradation de l'état de santé plus ou moins importante. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais, les cellules et les bactéries dans l'organisme sont agressées par cette chaleur. Et ça veut dire que toutes les parois intestinales par exemple, laissent plus passer des bactéries qui n'ont pas à aller se promener dans la circulation sanguine ou ailleurs dans le corps. Cette chercheuse m'expliquait qu'à 38,5 degrés, on peut se retrouver avec une défaillance circulatoire sur le cœur par exemple.
On va boire un verre ou prendre un pot au bar ? Petit gourdin ou...
Ces questions deviennent de plus en plus importantes. J'évoquais tout à l'heure ces climatologues qui évoquent qu'en 2050, on atteindra peut-être 55 degrés en pleine canicule dans l'est de la France, en gros, on devrait limite s'habituer à avoir des bilans météorologiques qui disent chaque année, cet été sera encore plus chaud que le précédent.
Il y a de fortes chances, oui. Il y a un risque, en tout cas, qui se vérifie. Sur ces trois dernières années, on n'a pas cessé, pendant les saisons chaudes, de battre des records de chaleur un peu partout sur la planète. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait aujourd'hui plus aucun doute que ces vagues de chaleur successives et de plus en plus fréquentes sont dues au réchauffement climatique. Juin-juillet de cette année, là, à l'heure où on parle, on se retrouve avec le cercle polaire avec des températures de plus de 30 degrés. Les normes de saison ont été pulvérisées de 4 à 6 degrés en Laponie. Donc pas en Inde, pas dans le Sahara. À Tokyo, il y a une canicule qui sévit depuis le mois de juillet, qui a conduit à 35 000 hospitalisations, 80 décès. C'est un problème mondial, global. C'est ça la bizarrerie de cette étude sur les 27 façons de mourir de chaud, c'est que ce sont des géographes qui vont s'intéresser à comment l'organisme périt quand il fait trop chaud.
Il y a de vrais enjeux, effectivement, derrière. C'est peut-être là-dessus que tu voulais enchaîner, Anissa ?
Oui, oui. Alors déjà, on a abordé toutes les manières dont la chaleur peut ravager notre corps. Je crois que là, on peut carrément parler de ça. Je parlais justement de cette problématique de réchauffement climatique avec un chercheur en biologie moléculaire, le professeur Bernard Sablonnière, et qui m'expliquait que si on parvient à telle température, alors on l'a vu déjà aujourd'hui, le corps est mis vraiment en difficulté quand la température extérieure dépasse les 38 degrés. Lui me détaillait, il allait un petit peu plus loin et me disait qu'au-delà de 45 degrés, toujours sous l'effet de ce fameux stress thermique, là, la machine s'emballe et donc les effets délétères de la chaleur se manifestent d'autant plus rapidement. On peut perdre jusqu'à 1,5 litre de transpiration, enfin d'eau par heure, donc c'est considérable. On comprend effectivement mieux comment le coup de chaud peut nous faire passer de vie à trépas en quasiment un clin d'œil. Il y a toute cette problématique donc qu'il faut prendre en considération. Concrètement, si demain, 2050, c'est à peu près demain, s'il fait 55 degrés sous nos latitudes, c'est toute notre manière de vivre au quotidien, tout notre environnement urbain qu'il va falloir repenser. Et donc, je discutais de cette question avec le climatologue Hervé Letreux, qui a participé à des études prospectives sur ce sujet. Et ce sont toute une multitude de détails qu'il faut envisager dès maintenant et conceptualiser et mettre en place dès maintenant pour être prêt demain à affronter ces très, très, très fortes chaleurs, parce que 55 degrés, c'est assez insupportable. Et donc, voilà, ça ira des revêtements des sols, par exemple, qu'on pourra envisager de peindre en blanc, parce que quand vous passez sur une route goudronnée, quand il fait un cagnard pas possible, vous voyez ces petites vapeurs de chaleur qui augmentent encore plus la sensation de chaleur ressentie. Ce sera penser différemment notre habitat, nos transports, l'agriculture, parce que bah, quand il fait chaud, on ne fait pas pousser les choses de la même manière. Donc, ça va être tout un mode de vie à repenser en fonction de cette chaleur qui va ne faire que grandir.
Aujourd'hui, on considère qu'il y a un tiers de la population mondiale qui vit dans des zones à risque de vagues de chaleur potentiellement mortelles. Donc, une étude Nature de l'année dernière disait qu'en 2050, ce serait les trois quarts de la population. Ce qui quand même situe, ça veut dire que ce n'est pas un problème des pays du Sud, de l'Australie, de la Californie, qui est habitué à des pics de chaleur. C'est un problème qui nous concernera tous, et même les pays scandinaves, quoi.
On comprend un petit peu tous les enjeux qu'il y a autour de ces montées de chaleur et des mécanismes en place dans le corps et la façon dont effectivement ils se dérèglent en cas de canicule. Alors je propose de terminer peut-être l'émission avec deux questions assez pratiques. Hein. Quels sont les premiers symptômes d'une hyperthermie, c'est-à-dire quand le corps appelle à la rescousse et que les chaleurs sont vraiment trop fortes?
Alors les premiers symptômes, on le répète, on l'a beaucoup entendu, mais en gros les maux de tête, maux de ventre, une peau sèche et rouge, un rythme cardiaque faible mais rapide. Voilà, ça c'est les quelques symptômes qui doivent immédiatement alerter. Et ce qui est très important de dire, c'est que quand on détecte ça, il s'agit d'une urgence. Donc il faut appeler les secours. Mais en attendant, il faut agir tout de suite, puisqu'il y a un cercle vicieux qui s'est mis en route et qui s'auto-alimente. Donc il ne faut pas attendre. Alors il ne s'agit pas de jeter la personne en hyperthermie dans une baignoire d'eau glacée. Il faut faire attention au risque de choc thermique. Mais il faut refroidir la personne. Donc évidemment la mettre à l'ombre, l'arroser avec de l'eau tiède, éventuellement poser des glaçons enveloppés dans des gants, ventilés, voilà, en attendant l'arrivée des secours.
Tu parles de personnes âgées et éventuellement des enfants ?
Alors évidemment, les personnes âgées sont plus à risque, comme l'expliquait Anissa au début, elles sont plus à risque, et notamment aussi parce que quand le système de thermorégulation, donc commandé par l'hypothalamus, est sollicité plus de 48 heures d'affilée, il a tendance à s'arrêter chez les personnes âgées, ce qui est évidemment dramatique. Mais les personnes âgées, les enfants sont particulièrement à surveiller. Et puis, le coup de chaleur, il peut aussi survenir chez des adultes jeunes en pleine santé quand ils font trop d'exercice. Le coup de chaleur d'exercice. Et ça, c'est un problème qui est très étudié, notamment à l'armée. La chercheuse que j'ai interviewée là-dessus est une spécialiste de la physiopathologie du coup de chaleur d'exercice, parce que les militaires qu'on envoie dans des zones évidemment très chaudes, il faut les acclimater. Il y a un vrai risque chez ces jeunes qui sont en pleine santé de subir un coup de chaleur. Donc évidemment, chez nous là, pendant les vacances, il faut être particulièrement attentif aux personnes âgées et aux enfants.
Anissa, tu voulais rebondir ?
Comme Hugo le disait, c'est vrai qu'il est important de faire attention, d'adapter ses activités quotidiennes en fonction de la chaleur. Effectivement, on a tendance parfois à un petit peu présumer de nos forces et de notre résistance. J'adresse ce message à tous les jeunes urbains que je vois faire des joggings sous un soleil de plomb. Voilà, faut pas qu'ils oublient qu'eux aussi peuvent être soumis à un gros coup de chaleur, une déshydratation, donc effectivement, il faut être vigilant à ça. Et puis du coup, on en profite également pour rappeler toutes les mesures de bon sens pour éviter ces fameux coups de chaleur. On pense à boire beaucoup d'eau, voilà, on use et on abuse des brumisateurs, des ventilateurs, on se gaffe de fruits gorgés d'eau, la pastèque, les melons, c'est la saison, donc c'est parfait. Les sorbets aussi, on peut faire ça de manière gourmande, et voilà, on pense à tous ces petits outils pour se maintenir au frais.
On peut aussi aller au cinéma ou écouter confortablement Sixième Science dans votre canapé avec un petit ventilateur à côté. Hugo, j'ai peut-être une dernière question. On parlait justement des militaires et peut-être de la façon dont ils devaient s'adapter. Alors, sans parler d'évolution du corps, il serait peut-être un peu tôt pour ça. Mais comment s'aguerrir, comment se préparer éventuellement à ces fortes chaleurs ?
C'est une habituation de l'organisme. Donc il y a un phénomène d'acclimatation sur lequel ils travaillent, donc à l'armée. L'idée, en fait, quand ils envoient des militaires en opération extérieure, c'est de consacrer 2 semaines à cette acclimatation, quand c'est possible évidemment, mais c'est de progressivement faire des exercices de basse intensité d'abord, et puis progressivement on augmente la charge du matériel porté, la longueur des marches, l'intensité de l'effort. C'est une question d'y aller progressivement, et c'est pareil pour n'importe qui. Quand on débarque dans un pays où tout d'un coup on sort de l'avion, il faisait 20 degrés, on arrive, il fait 35-36, les premiers jours, on y va mollo.
J'ai donné à boire à Polo. Ah. C'est un bon compagnon, Polo.
Ah, vous êtes fait un copain. C'est bien. Il a dû être content.
Anissa, je te laisse le mot de la fin.
Oui, comme disait Hugo, effectivement, on va, quand on est soumis à une chaleur inhabituelle, on va essayer de se préparer, faire en sorte que son corps supporte un petit peu mieux cette chaleur. Après, de manière générale, nous aujourd'hui, voilà, l'homme en 2018 et même demain l'homme en 2050, on n'est pas doté d'un corps fait pour supporter de très fortes chaleurs. Les 55 degrés, on pourra tenter de s'y habituer, mais en pratique, on n'y arrivera pas vraiment. D'où l'importance de moduler notre environnement urbain, quotidien, en fonction de cette hausse des températures. Parce que cette évolution-là, pour qu'on soit capable un jour de supporter de telles chaleurs, ça se fera au niveau de nos gènes. C'est notre patrimoine génétique qui va se modifier pour faire en sorte que l'on soit capable de supporter ces températures. C'est le cas des Inuits qui supportent le froid bien mieux que nous et des Touaregs qui supportent la chaleur bien mieux que nous aussi. Et cette évolution-là, elle se fait sur des millénaires. Donc, c'est pas pour demain qu'on est prêt à supporter 55 degrés.
Ouais, il va falloir être patient. Bon, bah, un conseil, faites attention aux fortes chaleurs. J'espère que vous aurez compris un petit peu plus ce qu'il en est du point de vue des mécanismes qui se mettent en place dans notre corps quand il fait un poil trop chaud. Alors, désolé si on a jeté un coup de froid sur vos vacances. Dites-vous qu'on vous a peut-être épargné 27 morts différentes. Hugo, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à notre studio malgré la canicule. Anissa, tu viens de moins loin, mais un grand merci quand même. Quant à vous, on vous donne rendez-vous dans un petit mois, le temps de laisser vos oreilles refroidir, vos yeux se glacer d'effroi devant l'article de Hugo et vos doigts transpirants nous décerner quelques étoiles sur la page iTunes de 6ème Science. Faites grimper les degrés, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée. N'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.